Chapitre 9 Les coffres forts. Dans son auto, Horace Velmont s'était affublé d'une fausse barbe et de lunettes d'écaille au vert légèrement teinté. Comme 10 heures sonnaient, la voiture s'arrêta le long du trottoir et au dernier coup de l'horloge, Velmont franchit le seuil de la banque Engelmann. Sous la voûte, 2 huissiers de la banque lui demandèrent sa carte d'affilié et la pointèrent. Dans le vestibule, 4 colosses à carrure de policemen anglais veillaient. Nouveau pointage après exhibition de papier. Enfin, dûment inspecté, vérifié, identifié sous ce nom d'Horace Velmont, dont il avait fait le sien, Arsène Lupin fut conduit par les gardiens vers un somptueux escalier de marbre. En bas des marches, au rez-de-chaussée, devant une grille massive renforcée de volets de fer, ils s'arrêtèrent et frappèrent 5 coups selon cette cadence 1, 2, 3, 4, 5. Alors ils entendirent les verrous que l'on tirait et virent s'ouvrir un des battants de la grille donnant accès à la salle qui précédait les caves réservées aux coffres-forts. Nul autre chemin n'aboutissait à ces coffres-forts. Il fallait franchir la grille, puis la porte de bronze qui s'ouvrait à l'autre extrémité de la salle. Des caissons de cœur de chêne cloutés de fer renforçaient le plafond. Les murailles étaient blindées de plaques d'acier. Dans la salle, 40aine d'hommes se tenaient assis sur des fauteuils, le long des murs ou bien groupés autour d'une petite estrade occupée par les officiels du bureau. Parmi ceux-ci, on remarquait un adolescent pâle et maigre, à l'œil froid. Il jouait au conventionnel, singeait Robespierre par son attitude et le muscadin par son costume. Monocle collé à l'œil, gourdin à la main et redingote à large col de velours et haute cravate. Les 40 autres conjurés étaient presque tous des gaillards à musculature puissante, à mâchoires carrées, à faces brutales et vulgaires. Tous se levèrent d'un même mouvement lorsque le timbre d'un gong eut annoncé le dernier arrivant. Horace Velmont les observa avec un sourire railleur et s'exclama avec une fausse admiration insolente : Hurrah pour les camarades gangsters ! L'effet produit fut fâcheux. Les 40 s'estimèrent offensés. Le mot « gangster » leur parut désobligeant. Ils élevèrent un murmure désapprobateur. Cependant, le jeune homme pâle sur l'estrade intervint. Il frappa la table avec un coup de papier et, ayant ainsi ramené le silence, dit ben, « Excusez-le, il ne nous connaît pas. C'est le correspondant français qui a vendu jadis à M. McAlermy les renseignements nécessaires à notre cause. » Et tout de suite, il commença d'une voix grêle dont il essayait de corriger la faiblesse par des coups de poing et des attitudes implacables. « Gentlemen, c'est aujourd'hui la première assemblée générale prévue dès le début par notre comité d'action, et je me crois obligé de donner quelques explications à ceux d'entre vous qui sont venus grossir nos rangs depuis ce début. » Comme vous le savez, mes amis, notre association date de plusieurs siècles et fut formée par des hommes de courage, pleins de foi religieuse, désireux de secourir la papauté au temps troublé de la Renaissance, alors que les papes défendaient l'esprit de la civilisation romaine et latine contre les barbares du Nord, francs et germains. L'association fut reprise, vivifiée et rajeunie à l'époque actuelle par 2 hommes éminents, 2 amis auxquels notre devoir ainsi que nos sentiments de gratitude et d'affection nous commandent de rendre hommage, Mark Alarmy et Frederick Feitz. Ceux-ci, comprenant la vie moderne, adaptèrent nos statuts aux circonstances, fortifièrent notre discipline et surtout nous proposèrent un but digne de nos efforts. Ce sont eux qui eurent l'idée d'original de soumettre nos hommes d'action, nos militants, à une autorité supérieure, composée de personnalités indépendantes et d'une moralité inflexible. Ils l'appelèrent, cette autorité supérieure, le Conseil de l'ordre et de la discipline intégrale, le CODI. Ce conseil, c'est nous qui le constituons. Nous sommes 40 associés austères et farouches, comme des puritains primitifs, sans pitié pour les faiblesses des autres et pour nos propres défaillances. 40 princes de l'enfer qui savent discerner, juger et frapper en toute quiétude et liberté d'esprit. Il fallait cela, messieurs, obligés que nous fûmes dès la mort, d'employer des agents de toutes sortes, sans scrupules et sans conscience. Il fallait cela pour contrôler le comité primitif des 11 et surtout pour établir les comptes et répartir les bénéfices, de manière que chacun ait sa juste part des résultats de l'effort général. Sur ces bénéfices, le CODI prélève d'abord pour lui 50%. La seconde moitié étant réservée à ceux qui agissent à travers le monde entier. Aucune erreur possible. Pas de passe-droit, pas d'iniquité. Nos registres sont tenus rigoureusement à jour. Notre comptabilité est à la disposition de tous. Organe de discipline, de moralité, de contrôle, le CODI n'en accepte pas moins l'autorité du comité dont les 11 membres du début ont ressuscité l'association des mafistes, l'ont doté de plans et de dossiers et l'ont enrichi par leur initiative et leur travail. Ils étaient 11 visionnaires inspirés, 11 réaliteurs admirables, dont il nous faut blâmer quelques-uns pour leurs erreurs et leurs crimes, mais que nous devons confondre tous dans notre reconnaissance. Les résultats de leurs entreprises personnelles, vous les connaissez, vous les avez appréciés, vous avez apprécié leurs bienfaits, vous savez à quel point, grâce à eux, le standing de notre vie s'est amélioré. Je ne vous dirai pas le détail de leurs prouesses individuelles et de leurs opérations si fructueuses, ni la probité sublime avec laquelle chacun, depuis une année, envoie à la trésorerie centrale un butin qu'il aurait pu si aisément dissimuler et conserver à l'insu de tous. Non, ne les louons pas. C'est tout simple pour eux, se sont donné le genre. La mafia leur donne les moyens de faire grand et d'agir vite. Ils agissent et fiers de réussir, ils sont fiers aussi de servir, d'enrichir la mafia. À un centime près, leurs comptes sont exacts. Offrons-leur ici le tribut de notre admiration. Rien de durable ne se fonde que sur la justice et l'intégrité. Mais il est, parmi ses collaborateurs de la première heure, deux hommes dont je veux encore traiter et exalter l'œuvre et l'esprit de volonté de réalisation. McAlermy, tout d'abord, puis Frederick Fields. Les petites entreprises ne peuvent donner que des résultats en rapport avec leur médiocrité. Il fallait à l'association que nous formions un but grandiose qui frappa l'imagination et galvanisa les initiatives particulières. Ce but, McAlermy, en un éclair de génie, nous l'a donné. Paul Sinner. Voilà les mots magiques qui, dès l'origine, ont résonné à notre oreille. Notre ancienne amie Patricia Johnston, devenue notre adversaire implacable et détestable, en a révélé au monde la véritable signification. La mafia contre Arsène Lupin, voilà la vérité formidable de notre entreprise. Ah, quel souvenir dans mon cœur et dans mon cerveau que celui de l'instant où McAlermy, l'honnête Alermy du journal Allo Police, clama devant moi sa haine contre Lupin. Lupin, le dernier des misérables, le plus dangereux, parce que le plus sympathique des malfaiteurs, le plus habile, le plus capable et le plus riche. Je répète ces trois mots, le plus riche. La richesse fabuleuse de Lupin, disait McAlermy, est une offense à la misère des honnêtes gens. Et c'est cette richesse que je veux atteindre. Arsène Lupin, millionnaire, milliardaire. N'est-ce pas une honte pour notre époque? Une civilisation est condamnée quand il s'y dresse de telles ignominies. Pensez à tout ce qu'il a volé, aux richesses mortes qu'il a ressuscitées pour s'en emparer, richesses des temps défunts, richesses romaines, richesses des rois de France et des monastères du Moyen-Âge. Tout cela est entre les mains de cet escroc. Quelle force pour lui! Quelle ressource inépuisable! Quel pouvoir intolérable! Or, une confiscation est possible. Je sais, par des renseignements confidentiels, qu'on m'a vendu et que j'ai pu moi-même vérifier en partie, je sais qu'Arsène Lupin a converti toutes ses richesses, diamants, pierres précieuses, propriétés, domaines, villas, maisons et palais, qu'il a tout converti en or américain. Il y a la Banque de France et la Banque Arsène Lupin, les coffres de l'une et les coffres de l'autre. Et la Banque Arsène Lupin, elle est ici même, c'est la Banque Engelmann. Les coffres de Lupin sont à côté de nous, dans cette forteresse. J'ai les clés et les mots des serrures. Dollars, lingots, pièces d'or, tout cela est à nous. C'est l'œuvre de ma Calermie et c'est la mienne. C'est mon œuvre à moi, qui vous êtes tous réunis à présent, pour que vous ayez les garanties de ma probité et de ma délicatesse. Voici les clés. Voici sur ces papiers les mots qui permettent d'ouvrir. Aucun obstacle désormais entre les 40 gaillards que vous êtes, bien armés, résolus à tout. Aucun obstacle entre vous et les milliards d'Arsène Lupin. Une tempête d'applaudissements gronda dans la salle, monta, décrut et reprit amplifié sans fin. Les chapeaux s'agitaient. Maffiano, brandissant sa canne, vociférait « Hurrah pour Alermi, hurrah pour Fiennes, hurrah !» Le jeune homme pâle réclama le silence et reprit, glorieux de son succès. « C'est une joie pour votre président de constater notre bel accord et avec quelle intelligence j'ai été suivi dans l'exposé de notre entreprise. Plus rien ne reste à dire, assez de paroles, des actes. Les coffres réclament notre attention. Cependant, avant de les ouvrir, il convient de bien établir entre nous une liste d'ayants droit afin de savoir ce qu'ils auront à se partager. » Posément, avec des haltes entre les indications, il lut. Numéro 1, Macalermi. Maffiano répondit. Mort assassiné mystérieusement, carte disparue. Numéro 2, Frédéric Faitz. Mort assassiné mystérieusement, carte disparue, dit encore Maffiano. Numéro 3, Maffiano, présent. Le Sicilien sauta sur l'estrade. Votre carte. Volée. Oh, c'est un cas qui sera examiné plus tard et résolu par décision du CODI. Je continue. Numéro 4. Numéro 5. Morts assassinés, l'un à Portsmouth, l'autre à Paris. Carte volée. Numéro 6. Présent. Carte volée, répondit un autre des assistants. Arsène Lupin reconnut l'homme. C'était un des complices immédiats de Maffiano qui avait participé aux attaques d'Auteuil et de Maison Rouge. Numéro 7. Numéro 8. Ce fut à nouveau Maffiano qui répondit. Disparu depuis 3 jours, leurs cartes leur avaient été volées auparavant. Numéro 9, numéro 10, numéro 11. Aucune réponse ne fut faite. Le jeune président récapitula. En résumé, sur 11 associés de la première heure, 2 sont présents, pas davantage. 4 sont morts, 5 disparus. et 6 cartes au moins, 8 probablement, sont volées. Les associés absents, ne pouvant répondre à l'appel d'aujourd'hui, perdent leurs droits, sans recours. J'appelle encore une fois les 3 derniers sur lesquels nous ne savons rien. Il prit un temps et articula lentement. Numéro 9, numéro 10, numéro 11. Présent le 11, cria une voix. La sensation fut générale. Qui êtes-vous ? Demanda le président. Un assistant, un barbu et à lunettes teintées, sortit de la foule. Qui je suis, barbe le numéro 11 que vous appelez ? Votre carte ? Ben, la voici. Une carte fut tendue au jeune homme pâle qui lut Paul Sidner, numéro 11. La signature de Macalermi, ajouta-t-il. Tout est en règle. Mais qui êtes-vous ? L'homme qui a vendu les renseignements dont vous parliez tout à l'heure, lesquels sont à la base même de l'entreprise. Quelqu'un vous connaît-il ici ? Quelqu'un peut-il répondre de vous ? Maffiano regardait avidement le mystérieux numéro 11. Moi ! S'écria le Sicilien. « Moi, je réponds de monsieur comme étant le voleur de toutes les cartes disparues. »« Et moi, je réponds de toi, Maffiano, comme étant l'assassin de Macalermi et de Frédéric Fais, » riposta l'autre. Un tumulte commençait. Le président tenta de l'apaiser. « Le conflit de nos deux associés sera réglé plus tard par le CODI. Notre tâche consiste maintenant à ouvrir les coffres. » Alors le numéro 11 s'approcha davantage et monta sur l'estrade. « Je m'oppose formellement à cette ouverture, » déclara-t-il d'une voix haute et claire. « À quel titre cette défense ?» demanda le président, faisant un effort vain pour dominer l'événement. « À titre de moi-même. En outre, les 11 cartes n'ont pu encore être authentifiées. » « Mais j'ai fait l'appel, » protesta le président. « Non, les règlements exigent que cet appel soit fait 3 fois pour qu'il n'y ait ni erreur ni omission. Alors, une dernière fois, j'appelle le numéro 9, le numéro 10. Personne ne peut nous renseigner. Il ne nous reste plus de numéro à appeler. Et le numéro 12, qu'en faites-vous ? » Une voix de femme avait répondu. Et rejetant un manteau d'homme, une jeune femme apparut, vêtue de noir, voilée de blanc. Elle s'approcha d'un pas mesuré et prit place sur l'estrade, près du numéro 11. « Voici mon signe de reconnaissance, » dit-elle en tendant une carte au président. Maffiano s'exclama stupéfait. « Patricia Johnson, la maîtresse du fils d'Alermi ? La dactylographe du vieil Alermi, la journaliste qui nous a démasqués. Non, la femme courageuse que Maffiano poursuit de sa haine et de son amour, déclara à haute voix le numéro 11. Votre maîtresse, hurla Maffiano. Ma fiancée, rectifia le numéro 11 en posant sa main sur l'épaule de Patricia. Ma fiancée que chacun respectera. « Sous peine de mort. » Le jeune homme pâle qui présidait se mit à rire. « Un conflit sentimental, » dit-il. « Cela ne nous regarde pas. Une question, madame. Toutes les cartes doivent porter en découpage ma griffe personnelle en forme d'araignée. La vôtre n'a que la signature de Macalermi. D'où vient cette anomalie ?»« Comme on le sait par un article de Allopolis, » répondit Patricia. « J'ai eu une longue conversation avec Macalermi quelques heures avant son assassinat. En me quittant, il m'a remis une enveloppe que je ne devais ouvrir que le 5 septembre de cette année. Je l'ai ouverte à la date fixée et j'ai su ainsi que le porteur de cette carte devait assister à une réunion importante que Macalermi avait fixée au mardi 20 octobre à Paris, à l'adresse de cette banque. J'y suis venu, j'ai entendu votre discours, qui m'a mis au courant des événements et de mes droits. Parfait, il n'y a donc plus qu'à ouvrir les coffres. Les coffres ne seront pas ouverts, scanda le numéro 11 d'une voix coupante. Ma volonté sur ce point est inflexible. Une menace gronda autour de lui. Nous sommes 40 et vous êtes seul, observa le président avec dédain. Je suis le maître et vous n'êtes que 40, fut la réponse menaçante. Sautant sur l'estrade, le numéro 11 courut vers la porte donnant accès au coffre. Il s'y dressa, un revolver à chaque poing. Les membres du conseil de l'ordre, qui s'étaient avancés jusqu'à lui, reculèrent en désordre et se massèrent à quelque distance. Le jeune homme pâle eut une hésitation, mais son amour-propre fut plus fort que la prudence. Dédaigneux du péril, il fit 3 pas églapis. « Ah, notre patience est à bout, je vous somme. »« Et moi, je t'assomme au moindre geste, avortons. » Le pâle jeune homme pâlit d'avance, mais n'avança pas. Plusieurs voix s'élevèrent. « Mais qui êtes-vous donc pour avoir l'audace ?» Alors, remettant une de ses armes dans sa poche, le numéro 11 eut un geste rapide. Barbe et lunettes tombèrent à terre. Un visage nu apparut, souriant et redoutable. Et la réponse vint foudroyante. « Arsène Lupin !» Au nom prestigieux, il y eut un recul général et un silence de terreur. Il continua. « Arsène Lupin, oui, détenteur de toutes les cartes, c'est-à-dire de tous les titres de propriété sur les milliards qui sont dans ses coffres. Lorsque j'appris que McAlermy et Fyde recevaient l'ordre des maphistes et pour rehausser le prestige organisaient une croisade contre moi, je m'introduisis dans l'affaire afin de mieux surveiller mes intérêts et je leur fournis toutes les indications utiles sur mes logements, mes complices, mes retraites, mes grottes, mes souterrains, mes cachettes, tout ce qui vous a mis sur la voie de ces coffres où j'étais en train de réunir furtivement mes richesses. » « Manœuvre dangereuse !» balbutia le président, à peine remis de son émotion. « Mais si amusante !» En tout cas, le résultat est là. Nos statuts exigent le partage des bénéfices au prorata des actions. Or, j'ai non seulement la majorité dans cette société anonyme, mais la totalité des actions. Si vous n'êtes pas content, dressez-vous au tribunal. En attendant, je maljuge le magot et je le garde. J'ai pour moi le droit, ma conscience, ce qui vaut mieux, la force. » Patricia s'était rapprochée de Lupin. Elle murmura pleine d'angoisse. « Mais qu'un seul individu tire et tous ils se jetteront sur vous comme une troupe de loups affamés. » « Ils n'oseront pas, » répondit-il. « Pensez à ce que représente pour des bandits un type comme Arsène Lupin. Pensez à mon prestige. » Mon erreur, rien ne compte pour une bande aveugle, affolée de rage et de cupidité. Rien ne lui résiste, rien. Si, moi. » Il n'avait pas achevé que de la foule partit d'un coup de feu. Lupin fut touché à la cuisse. Il chancela, tomba, mais se releva. Pourtant, il dut s'appuyer au mur. « Lâche que vous êtes !» cria-t-il. « Mais je ne crains pas vos attaques anonymes. « Je ne céderai pas. Le premier qui essaie de passer dans ce souterrain, je l'abats. Si un coup de feu part encore, je riposte. À qui la première balle? À toi, Mafiano. » Il les menaçait de ses armes. Encore une fois, tous reculèrent. Le jeune homme pâle intervint. « Arsène Lupin, dit-il en haussant la voix, je vous ai proposé une transaction tout à l'heure, acceptez-la. « Personne ne doute de votre courage, mais la tâche est au-dessus de vos forces. Votre fortune est là, elle nous appartient. Nous n'avons qu'à la prendre sans qu'il vous soit possible de vous y opposer. Que nous importe de la garder tout entière, elle est si considérable que le tout vous est inutile. Alors acceptez un partage raisonnable. 100 millions pour nous, il vous en restera des centaines pour vous. » Des rumeurs de protestation s'élevèrent. Personne ne voulait consentir à un pareil sacrifice. L'énorme fortune qu'il n'avait qu'à prendre, croyait-il, les affolait. Lupin répondit : Ben vous amis et moi, Robespierre, nous sommes d'accord. Ils veulent tout et moi aussi. Tu aimes mieux mourir ? S'écria théâtral le pseudo-conventionnel. Oui, 100 fois oui. Lupin vaincu n'est plus Lupin. Mais tu es vaincu, Lupin. Non, puisque je suis vivant. Et maintenant, attention, camarade. Il fit un geste, et les plus proches, pour gagner le large, bousculèrent leurs acolytes tassés derrière eux. Mais Lupin avait en une seconde glissé entre deux boutons de son veston un de ses revolvers. Tenant toujours l'autre arme braquée sur ses adversaires, il porta sa main libre à sa bouche et appuyant deux doigts sur sa langue avec une maîtrise que lui eût envié le plus expert voyou des rues, il lança un coup de sifflet strident dont la violence dans cet espace restreint fit mal aux oreilles. Tous les cris, les menaces, les imprécations cessèrent. Le silence s'établit dans une attente anxieuse.